Les nuits de France Culture.
La folie peut être créative. Les artistes, des fous, et les malades mentaux, des artistes, dès lors qu'on les reconnaît comme tels, comme le fit Jean Dubuffet en inventant le terme « art brut » et en faisant entrer leurs œuvres au musée. Avant de créer la clinique de la Borde, Jean Houry était passé par l'hôpital de Saint-Alban en Lozère où François Tosquelles développait la psychothérapie institutionnelle. Dans le cinquième numéro de « À voix nue » que lui consacrait Cécile Amcy en 1990, Jean Houry a abordé cette question de la production artistique des malades mentaux en évoquant trois représentants de l'art brut ayant vécu à l'hôpital de Saint-Alban, Marguerite Sirvin et plus particulièrement Auguste Forestier et Benjamin Arneval, qu'il avait l'un et l'autre mieux connus. Au-delà de l'art brut, Jean Houry parlait dans cette émission de l'importance d'une proximité avec l'art en général pour saisir, sentir ce qu'est le lieu de la création véritable, qui est aussi celui où se joue l'émergence des troubles psychotiques. Un territoire où seuls les grands créateurs sont toujours d'emblée, disait-il. Au terme de cette série d'À voix nue, il disait combien comptait pour lui l'œuvre de Alberto Giacometti. L'homme qui marche et ses portraits dans lesquels, jamais totalement achevés, objet d'une remise en cause et en forme permanente, il reconnaissait quelque chose de son propre travail avec les malades mentaux. À voix nue, Jean Houry, cinquième et dernier entretien, diffusé le 28 septembre 1990 sur France Culture.
À voix nue. Entretien d'hier et d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, Jean Houry s'entretient avec Cécile Amcy. Cinquième et dernier entretien.
Est-ce qu'on peut évoquer certaines figures baroques, enfin...
Oui.
De la création...
Forestier.
Oui, par exemple, Forestier, puis une femme dont vous parlez, qui s'est constituée une robe de mariée avec des bouts de ficelle.
Oui.
Et puis enfin, ce garçon qui avait tué son frère,
ouais, c'est ça.
Parce qu'il l'avait identifié à une espèce de serpent mythologique.
C'est ça, ce qu'on appelle Arneval.
Arneval.
Mais Arne.
Arne.
Celui-là,
c'est celui qui avait tué son frère.
C'est ça. Ça, c'est des malades de Saint-Alban.
Les trois.
Alors Forestier, on peut dire son nom, Auguste Forestier.
Très célèbre maintenant.
Très célèbre parce que c'était exploité par beaucoup de surréalistes. C'est un type en effet que j'ai connu bien. Forestier était rentré à Saint-Alban en 1914. Hein, c'est une histoire. Alors j'ai appris seulement maintenant qu'il y a des dessins de Forestier que j'ai jamais vus. Mais enfin, j'avais constitué à un moment donné. Ben, il y avait, bien sûr, du fait que Saint-Alban, il y avait toute une histoire pendant la guerre. Bon.
C'était un lieu de résistance.
Un lieu de résistance, un lieu de refuge. Le type dont je parlais tout à l'heure de l'Institut Pasteur, là, il était en refuge. Il avait fait le fou. Tout le monde croyait qu'il était vraiment un fou grave. Hein, avec Tosquelles et quelques-uns qui savaient que ce n'était pas vrai. Mais il y avait plein d'autres qui étaient. Éloire est venu, Tsara, tout ça. Mais... si bien qu'ils ont pris des objets de Forestier. Mais Forestier était devenu sculpteur de matériaux, enfin j'en parle dans une monographie. Et alors...
Mais comment est-ce qu'il est devenu sculpteur? Un beau jour, un beau matin, il est devenu sculpteur?
Voilà. J'avais fait paraître, c'est un des premiers écrits que j'ai fait en 1948, que j'avais écrit en principe pour Dubuffet. Parce que je connaissais bien Dubuffet, Jean Dubuffet, qui faisait à ce moment-là les premières expositions de l'art brut dans l'arrière-cour de chez Gallimard, là, à l'université. Et alors, j'avais envoyé à Dubuffet toute la série que je pouvais faire de toutes les œuvres de Forestier pour voir l'évolution de la sculpture. Depuis des monstres, des maisons, des charrettes, des petits bonhommes, des épées, enfin, énormément de trucs. Alors Auguste Forestier, lui, il avait commencé, dit-on, en prison, à sculpter avec le couteau des os quand il mangeait une côtelette, je sais pas quoi, ou du pot-au-feu, il sculptait les os comme ça. Très primitif, mais en même temps, comme dit l'observation, avec un certain art. Quoi. Et puis, il a été hospitalisé. Quoi. Et puis, ça a été très lentement, il en est arrivé à se constituer à une sorte d'atelier primitif, comme ça. C'était pas de l'art-thérapie, ça. C'est-à-dire, dans un couloir, on pouvait passer, près de la cuisine de Saint-Alban, là où il y avait les bonnes sœurs, les religieuses, il avait constitué une espèce d'établi, fabriqué par lui-même, des caisses aussi, et il récupérait tout le bois, ou tous les détritus, on peut dire, qu'il y avait, ça j'en parle d'ailleurs dans le livre. Et alors il constituait là son truc.
Qu'est-ce que vous en déduisez de ça justement? Je me suis posé la question du fait qu'il fasse des sculptures qui rappellent par exemple ce qu'on faisait dans l'Égypte ancienne alors qu'il n'avait aucune culture. Hein, d'où ça vient?
De même
ça
que je parle d'un monstre qui ressemble au monstre des pyramides.
Le Sphinx.
Inca.
Tenayucan. Hein. Moi, je me souviens d'un monstre qui faisait peur aux chats.
Mais c'est ça,
celui-là.
Comme ça. Ouais. Il en construisait plein de monstres comme
ça. Comment ça s'explique, ça? C'est-à-dire, dans l'inconscient, il y aurait comme
alors
ça.
Alors là, mais... c'est compliqué. Moi,
c'est une question intéressante.
Bah oui, oui. Ouais. Je pose le problème, d'ailleurs, dans cette monographie du début, là, en 48, un peu trop imaginative, je crois, influencée à ce moment-là par toute la thématique qui est valable, à condition de la remettre un peu sur pied, de la symbolique de Jung. Hein, il y avait Métamorphose des symboles, un gros livre de Jung. Dedans, on peut puiser énormément de documents, en fin de compte, de symbolisation, d'archéologie, etc. Quoi. À ce point de vue-là, c'est pas mal. À la base même de la personnalité, quoi, de façon archaïque, on trouve des mécanismes similaires, toujours les mêmes. Et je pense bien plus que c'est ça, moi, qui est en question. Les mécanismes de base, au point de vue structural, alors, c'est bien vu aussi par Lévi-Strauss, tout ça. Mais alors, le style même de quelque chose fait qu'à un certain moment d'une certaine, disons, forme de civilisation, bah, apparaissent à peu près les mêmes styles. Alors, un grand problème, est-ce que la dissociation schizophrénique, cette régression archaïque, mène... Alors, c'est une imaginarisation un petit peu débordante, mène à l'exploration, justement, d'un niveau de civilisation archaïque. Ouais. Ah, c'est tout le problème, disons, de la mentalité primitive. Hein. Un peu après... J'avais fait rapidement, parce qu'il fallait le faire rapidement, la thèse de médecine, en fin de compte, sur la création en 1950. Et je reprenais toutes ces théories-là, et en particulier, j'aimais bien toute une réflexion d'un critique d'art, Herbert Reid, Herbert, R-E-A-D, qui pose justement des styles comme ça. De plusieurs siècles à plusieurs siècles, on retrouve les mêmes styles. Et après, j'ai retrouvé cette réflexion, à mon avis, bien plus, profonde, là, chez quelqu'un que j'aime beaucoup, qui parle du baroque, c'est Eugenio d'Ors, qui parle que le baroque, c'est pas une époque. Parce qu'on dit, oh, le baroque, 17e, 18e siècle, contre-réforme, qui n'empêche pas. Mais qu'on retrouve du baroque dans l'Antiquité, n'importe où. Donc, il y a des structures. Or, par la dissociation, on doit trouver quand même des structures comme ça, de base, hein, d'expression. Et je pense qu'il ne faut pas aller trop loin, parce que c'est dangereux, parce qu'on arrive à dire n'importe quoi. Hein.
Alors, revenons à Auguste Forestier.
Ben lui... Justement, c'est lui dont je parle là.
Oui, oui, j'ai bien compris. Mais lui, alors... moi, je me souviens que vous disiez que, en fait, c'était lui sans cesse qu'il sculptait. Hein, c'était lui partout, lui sans cesse.
C'est une sorte de narcissisme. Enfin, au fin de compte, ce qui est à la base de la schizophrénie, c'est quand même une sorte toujours de mégalomanie et de narcissisme, qu'on appelle habituellement le narcissisme. C'est-à-dire tout est centré sur la personne. On est le centre du monde, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est la fin du monde. C'est parce qu'il y a une catastrophe intérieure, et on dit que c'est le monde. C'est pareil c'est le narcissisme qui est en question. Et alors...
Mais en même temps,
il se représentait.
Oui, mais à travers ça, il arrive à se... Enfin, comment dire, à vivre.
Ça dépendra comment on s'est accueilli. D'où la difficulté, par exemple. S'il y a des esthètes un petit peu pas très avertis qui se mettent à exploiter ce qu'on appelle des œuvres, comme Forestier ou Mademoiselle Chose, là, sur les dentelles, ça risque de dégénérer. Et ça ne lui rend pas service du tout. Il va se devenir stéréotypé. Ça va le racornir un peu. Hein. C'est ce que craignait Tosquelles, parce que je ne cite pas, mais une fois Dubuffet était venu à Saint-Alban avant que je connaisse. Et Tosquelles ne savait pas bien qui c'est, il a refusé de l'entrée. Hein? En disant, qu'est-ce que c'est encore un type qui vient exploiter les types Forestier et compagnie. Allez, allez, du balai. Il n'est pas rentré.
Oui, vous rappeliez le sens étymologique du mot « création ». C'est quelque chose qui a à voir avec croître, croissance, crescere ou créare et concret. Et moi, j'aimerais qu'on parle de deux autres cas, donc deux malades que vous avez rencontrés à Saint-Alban.
Oui.
Cette femme dont vous avez ici à la bord d'un tableau,
oui,
qu'elle faisait avec des petits bouts de chiffon, de ficelle.
De couleurs, de vieux chiffons. Elle passait d'ailleurs avec un... Elle colorait ces chiffons-là avec un peu de crayon de couleur, simplement. Hein. Et puis, elle devait coudre un peu des bouts de laine. Il y a eu une robe de mariée, de fait. Hein.
C'est pareil.
La mariée mystique, qui est également au musée de l'art brut à Lausanne. Et c'est présenté surtout par Jean Tisse. Qui en a fait, il me semble qu'il en a fait une monographie dans les cahiers de l'art brut. Il parle d'elle. Moi, je ne l'ai pas vraiment connue directement.
Ah oui. Hein, parce que ce serait intéressant, ce serait de savoir si elle arrivait à dire ce qu'elle faisait. Par exemple, dans ce tableau-là, qui est une scène un peu champêtre avec plusieurs personnages, où est-ce qu'elle est, elle?
Je n'ai pas suffisamment connue pour... je laisse d'ailleurs très comme ça.
Hein, oui, hein. En même temps, vous dites des choses très précises. C'est elle-même qu'elle ramassait les débris épars de son corps éclaté. Donc,
ouais,
quand on a voulu lui donner des vraies ficelles...
Ça a disqualifié un peu ce qu'elle faisait. On ne peut pas apporter du corps éclaté tout fabriqué à Vence. Un peu comme Forestier. Hein. Il faisait lui-même ses outils, il redressait les clous, il ramassait des bouts de verre, même les dents. Des dents à la cuisine, enfin des dents de, je sais pas quoi,
des dents de
qui plantaient dans les gueules des monstres, quoi. Des bouts de cuir. Il y a des personnages avec des chaussures d'enfants, quoi. Enfin, c'est étonnant ce qu'il a fait. L'assemblage, enfin, c'était un assembleur en même temps. un don d'assemblage. C'est seulement depuis quelques années que Tosquelles m'a raconté que j'ai compris pourquoi tous les villages autour avaient des petits chariots, enfin des petites chars à bœufs.
Qu'il fabriquait ?
Qu'il fabriquait.
Ouais.
Et il en parle, de Tosquelles, il me semble, dans son film qu'on a fait sur lui. C'est que, primitivement, l'hôpital était traversé par la route parce que c'était trop compliqué de faire le tour. Et les paysans passaient dans l'hôpital avec leurs chars à bœufs. Ils avaient donc sculpté les chars à bœufs. Ils restaient de la route pour qu'on lui achète, à fin de compte. Hein, pour rien du tout, hein, pour une cigarette. Et alors, il y en avait plein de villages, les chars à bœufs.
Alors, il y a un autre de ces malades, 10 malades que vous connaissez peut-être plus, c'est Arneval.
Ah oui, beaucoup, oui.
C'est-à-dire que vous ne l'avez pas traité, enfin, comment dire?
Oui, enfin, je le connaissais très bien, je le voyais tous les jours.
Alors lui, c'est ce que vous appelez, enfin, c'est ce qu'on appelle un paraphrène fantastique.
Voilà. Oui, enfin, c'est une catégorie,
c'est une catégorie. Alors, il y en a d'autres.
Paraphrénie fantastique, paraphrénie systématique.
Et expansive.
Et expansive. Alors, les expansives, j'en parle aussi d'un autre. Magnifique. Tout ça, c'est bien décrit dans l'art brut. Jaillet. Le boucher.
Oui.
Pour Arne, là, c'est ce que le paraphrène, c'est-à-dire un paraphrène, en deux mots, c'est ce qu'on appelait, dans la schizophrénie, dans le processus schizophrénique, ce que certains ont appelé la schizophrénie post-processuelle, c'est-à-dire après un processus comme ça d'effervescence délirante ou de déconstruction, il y a une espèce de stabilité qui s'installe avec une sorte de clivage, c'est-à-dire une partie, si on peut dire, de la personnalité qui apparemment est normale. C'est pour ça qu'on pourrait parler un quart d'heure avec ce personnage, là, ce sujet. Il est tout à fait normal. Et puis d'un seul coup, on ne sait pas ce qu'il y a. Tout un arrière-plan qui est complètement délirant. C'est que dans ce qu'on appelait dans les hôpitaux, dans les asiles plutôt, qu'on regroupait ensemble le quartier des bons travailleurs, c'est des paraphrènes. C'est-à-dire des types qui étaient capables de travailler, de sortir, etc. Mais qui gardaient, disons, un délire profond. Hein. Presque avec des comparaisons anatomiques. On disait un délire encapsulé, hein, comme la tuberculose, quoi. Mais enfin, donc lui, apparemment, il se présentait bien, mais enfin très vite, on voyait qu'il avait toute une gestuelle, des stéréotypies, et alors des convictions délirantes.
Alors sa conviction à lui, c'était
que c'était extrêmement dangereux, par exemple. C'est pour ça qu'il n'a pu dessiner pour moi, parce qu'on s'entendait bien.
Ouais.
Mais jamais il avait dessiné que pendant un mois dans toute sa vie. Et c'est ces 15 dessins là que j'ai donné à Dubuffet aussi, qui sont à Lausanne, et des dessins, alors là vraiment on voit le côté bizarre, hein, mais ornemental, avec des plans comme ça, comme des dessins qu'on appelait surréalistes, hein, mais un style, et qui a frappé tout de suite Dubuffet, quoi. Il a été tombé amoureux de ces dessins-là, à tel point que dans ses revues, c'est souvent une des vaches dessinées par Arneval qui sont sur la couverture, sur des affiches, quoi. Or, le danger, là, c'était, pourquoi il n'a pas continué, c'était que par la pointe du crayon, il y avait une énergie qui s'en allait. Et que, par exemple, s'il représentait un animal, ou alors ce qu'il appelait un C, justement. Un C.
C, E, accent aigu.
On peut l'écrire comme on veut.
Hein. Ah oui, c'est vous qui l'avez écrit comme ça.
C, E, ou C, E, T, ou C. C'est curieux parce qu'on retrouve ça, justement, pour reprendre la discussion de tout à l'heure. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps, dans la description d'une, je crois, d'une ethnologie de... une ethnie du Togo, je crois, C'est pas sûr, hein. Des trucs équivalents à des C. C'est même bizarre, hein.
Alors le C, c'est quoi? C'est un monstre, un serpent
Alors le C, il le dessine. Alors ça apparaît comme une espèce de limace, de chose assez informe, comme ça, ou un poisson, ça, une bête qui n'a pas de membre, rien, quoi. C'est une espèce de forme, comme ça. Et alors, qui a la capacité, d'après lui, d'être aussi bien sous terre que dans les airs, de traverser. C'est un passe-muraille, au fond. Hein. Il traverse. Et qui a la capacité aussi de métamorphose. De se métamorphoser en n'importe quoi. Donc, c'est quand même une potentialité énorme. Hein, c'est, hein. Alors, c'est le représentant de l'énergie. Mais qui peut être maléfique. C'est très dangereux. Hein, c'est. Pourquoi ? Parce que ça se nourrit. C'est un peu comme un vampire. Mais ça se nourrit de la substance de n'importe qui. Alors, ce qui est la substance, alors par exemple, tout ce qui s'échappe du corps, alors, naturellement, ça, le sang. Mais alors, lui faisait grand cas également du sperme. Très friand du sang, du sperme, et de tout ce qui s'échappe comme ça, de vital, quoi, de la vitalité même. Hein. Alors c'est très dangereux.
Ça n'a pas de sexe en l'occurrence,
ça
pas le
sexe,
C, non.
Pas ça,
c'est pas plus spécifiquement féminin que masculin.
C'est avant les anges. Hein. Et alors, il disait qu'avec ce crayon, là, à force de dessiner comme ça, ils vont être là fixés sur la feuille, mais il faut s'en méfier. Parce qu'à partir de la feuille, ils peuvent très bien prendre vie, là. Donc, il faut arrêter. Hein. C'est par condescendance, enfin, par gentillesse, qu'il me dit, c'est trop dangereux, quoi. Hein. J'arrête de dessiner. Puis, il n'y avait plus rien à faire. Là. On n'a pas pu du tout relancer ça.
Mais lui, ce C-là, il l'avait vu sous les traits de son frère.
Alors, c'est ce qui a déclenché la tragédie. Hein. C'est qu'au moment de la guerre, soit vers 39, par là, il y avait une exploitation, il était dans la montagne, une exploitation agricole. Mais il était déjà avec des troubles profonds de la personnalité, certainement, une espèce d'apragmatisme, enfin, il faisait pas grand chose. Et c'est son frère qui dirigeait, en fin de compte, l'exploitation. Et un jour, il a vu qu'il venait de l'extérieur, qu'il franchissait la barrière, un C. Alors, il a pris le fusil, pas d'histoire, parce que alors là, c'est menaçant, il a tiré dessus, quoi. Mais c'était une illusion hallucinatoire, un mélange. Et c'était son frère qui entrait. Donc il a tué son frère, quoi. En pensant que c'était assez. Donc il y a eu tout un jugement, etc. Puis il a été reconnu comme n'étant pas responsable, comme on disait, article 64. Mais enfin.
Alors. Tout ça se termine dans un musée ?
Oh, c'est difficile à dire dans un musée, parce que c'est bien sûr qu'on peut dire ça, hein. Mais c'était très important, par exemple, pour lui, pour Arneval, quoi. Le mois qu'il a passé là, dans cette sorte d'isolation, on peut dire affective, disons de communication, comme ça, d'échange. Quoi.
Mais par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il était possible, puisque vous aviez des contacts avec lui, d'essayer de voir ce que ce C pouvait représenter ? Enfin, bon, est-ce qu'il y avait un travail possible avec cet homme-là ?
Ben, on le voyait, c'était comme dans tous ces. Il avait un délire, on peut dire, cosmogonique en même temps. Puis un délire, par exemple, au fond. Quand il voyait un pull vert, par exemple, eh bien, pour lui, le pull vert, c'est un pull vert. Ça n'empêchait pas de voir un pull vert, bien sûr. Hein. Mais il voyait en même temps tout ce qu'il avait fallu, c'est bien, au fond, comme vision, tout ce qu'il avait fallu faire pour un pull vert, toute la civilisation que ça représente, les troupeaux de moutons qu'il a fallu tondre, et puis tout, et les bains de teinture, et puis et tout ça, et puis. Tout quoi. Alors, mais ça devient très encombrant. Pour n'importe quoi, c'est pareil. Une sorte de vue diachronique. de tout ce qui se présente. Alors, en même temps, avec la menace, justement, d'essai, il y a certainement toute une hiérarchie des puissances. Ce qui fait tout le délire paraphrénique. Et lui-même étant pas forcément le roi dans tout ça. Devant prendre des comportements d'évitement, des rituels. Ouais.
Il est resté comme ça.
Ben oui, moi je l'ai plus revu, oui. Mais il était quand même, il vivait bien, enfin, mais à condition de... Il vivait bien, il était très occupé, en fin de compte. Hein. Parce que quand, à ce moment-là, la porte était fermée du quartier, après on a cassé tous les murs. Hein. Mais alors, quand ça sonnait, c'est lui qui allait ouvrir la porte, je parle de ça. Mais alors, c'est tout le problème, disons, du passage. Ben pour n'importe qui, c'est compliqué, une porte. Hein. On ne fait pas attention, mais vous passerez, il y a la politesse, etc. Passe devant, vous passez pas. C'est moi qui passe, hein, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Hein. Alors, le problème du seuil, franchissement du seuil. On voit bien que c'était la haute civilisation, le franchissement du seuil. Alors pour lui, c'était capital, alors il fallait prendre des précautions. Quand il ouvrait la porte et que quelqu'un amenait la soupe, par exemple, il y avait une danse rituelle. Hein, il tournait sur lui-même plusieurs fois pour conjurer certainement quelque chose, disons, de... Oh, c'est bien qu'il faut payer quelque chose à l'esprit qui ouvre, hein, etc.
Quoi. Etc., oui.
On n'en finit pas. Mais alors... C'est important qu'il y ait une surface de rencontre, simplement, déjà, où ce type puisse s'exprimer sans qu'on lui dise « c'est complètement fada ce que tu racontes hein, ». Qu'il puisse avoir... Parce que... On peut pas, moi, j'ai jamais pris un psychothérapeute, puisque à cette époque, moi, j'y connaissais pas grand-chose. Puis il a fallu vraiment un appareillage énorme. Hein. Il faut être plusieurs pour... Mais en suivant cette trace-là, on voit bien la difficulté. Il a dit « arrêtez tout de suite, hein, c'est dangereux ». Alors, on veut dire « c'est dangereux pour lui également ». Dans le sens que ça risquait de déstructurer encore plus. Et qu'au lieu d'aller ouvrir la porte, il puisse même plus bouger, qu'il soit catatonique, hein, dans un coin complètement recroquevillé jusqu'à la fin de ses jours. Donc il faut faire très attention de ces machins-là.
Pour parler d'un autre lieu de la création, on a changé de lieu. On est sorti dans le parc.
Voilà. Non, mais c'était au sujet de l'importance que je donne, moi, à Giacometti. Hein. Bien sûr que ça n'a pas une vue, c'est pas une vue directe sur la psychopathologie, loin de là. Mais par exemple, sans parler justement de ces portraits, de toute l'histoire qu'on connaît bien de James Lord et la difficulté d'arrêter, parce que...
On la connaît pas très bien,
toujours
en fait.
Jamais content, hein, il faut toujours
voilà.
qu'il remette à zéro, qu'il gribouille sur son portrait, etc.
Giacometti devait faire le portrait de ce
James
monsieur.
Lord, oui. Et puis au bout de 3 semaines, James Lord a dit, bon, ben, ça va, j'ai une crampe, arrête. Et comme ça, il a pu sauver, disons, son image, enfin son portrait. Quel portrait, justement, ce que cherchait Giacometti, c'est pas la figure, comme on peut dire, la figure de quelqu'un, mais le véritable portrait, c'est-à-dire le visage, c'est-à-dire ce qui n'est pas, justement, représentable, hein, mais ce qui peut être évoqué comme ça par une complexité à partir d'un espace qui n'est pas un espace, disons, matériel. Et c'est la difficulté. Alors, c'est pour ça, encore bien mieux dans les sculptures de Giacometti. Alors, d'une façon caricaturale, un petit peu, moi, j'évoque souvent l'homme qui marche, avec ses grands pieds. Je dis, l'homme qui marche de Giacometti, il n'est pas schizophrène, celui-là. Parce que où va-t-il? Alors, pour imager, il va dans le pré de Francis Ponge, de la fabrique du pré. C'est-à-dire, le lieu, ce que Francis Ponge appelle le pré, la préposition par excellence, mais en même temps le lieu d'émergence, où il y a le rythme qui est là, hein, l'élan retenu, comme il dit. Et alors, dans ce lieu-là, c'est ce lieu d'émergence, c'est le lieu de la création véritable. auxquels on n'a pas accès habituellement. Il faut être extrêmement doué, comme Giacometti, comme Braque, comme tous ces gens-là, pour y être comme ça d'emblée. Mais c'est ce lieu-là qui est en question dans la phénoménologie même de l'émergence des troubles psychotiques. Ce qu'on appelle le corps en apparition, c'est pas le même chez un maniaque ou un catatonique, et même toute la symptomatologie au niveau du langage, enfin, les processus du dire, c'est là qu'on peut vraiment y être. Alors c'est dans ce sens-là que, non pas il n'y a pas une aide directe de Giacometti, mais ça aide beaucoup à saisir, à délimiter un lieu qui n'est pas d'emblée comme ça dans la vie courante, quoi. Mais qui pourtant joue un rôle permanent, hein, qu'on le sache ou non, quoi.
Ouais.
Voilà, à peu près.
C'est bien. Mais ouais. Quand vous dites, si on prend l'exemple de Giacometti, quand vous dites que dans ce lieu-là, les grands créateurs y sont d'emblée, par rapport à ce que vous disiez de Giacometti, c'est-à-dire qu'au fond, il n'était jamais satisfait, ça pose quand même une...
Bah, c'était dans le précaire aussi, tout le temps.
Le précaire. Ouais,
voilà.
Le précaire.
Le précaire, si on peut dire. Ah, c'est une mise en forme qui n'en finit pas, quoi. C'est pas, l'œuvre est jamais atteinte. C'est une mise en œuvre permanente. Et c'est ça qui est important d'ailleurs pour nous. C'est une construction permanente. Et quand c'est fini, bah c'est grave.
Voilà. Merci Jean-Henri.
À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Jean Houry s'entretenait avec Cécile Amsi. Réalisation Marie-André Arminot.
Le cinquième et dernier des entretiens à voix nue avec Jean Houry a été diffusé le 28 septembre 1990 sur France Culture.